J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter ce soir La Bohème par Lucia Bellès, qui est chargée de littérature au musée d'Orsay. Il sera accompagné par Coralie Selig, comédienne, théâtre, télévision, cinéma. Très bonne comédienne. Écoutons.
C'est assez d'actualité de présenter ce soir ces scènes parce que, comme vous savez, en ce moment, on donne sur les écrans La Bohème de Puccini dans la mise en scène de Comencini. Et c'est évidemment des scènes de la vie de Bohème que s'est inspiré Puccini pour son opéra. Donc ça tombe assez bien. Ça tombe d'autant mieux que, en outre, les scènes de la vie de Bohème viennent d'être rééditées en poche. D'autre part, il y a d'ailleurs encore autre chose qui sort, La Séchée Calmanévi, je ne l'ai pas, qui est la pièce de Murger, La vie de Bohème, qu'il a tirée de son feuilleton et scène de La vie de Bohème, qui sort chez Calmanévi avec des annotations par Comencini. Donc vous voyez que tout ça forme un tout. En ce qui concerne la bibliothèque des Amis de l'Instruction, je tiens à signaler qu'il y a deux éditions des scènes de La vie de Bohème qui sont disponibles. Elles ne sont pas en très bon état. C'est signe que ça a été très populaire. Qu'est-ce que c'est que les scènes de La vie de Bohème? C'est un pot pourri qui est paru dans un petit journal entre 1845 et 1849, donc en pleine monarchie de Juillet. Donc ce petit journal s'appelait Le Corsaire Satan. À la suite, ce petit journal, j'en reparlerai après, avait une audience assez limitée, comme tous les petits journaux de l'époque, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et il est évident que si c'était resté sous forme de feuilleton, ça n'aurait rencontré aucun succès. Mais heureusement, un vaudevilliste de métier, Théodore Barrière, est venu demander à Murger d'adapter son feuilleton pour le théâtre. Et c'est devenu La vie de Bohème, qui a été montée au Théâtre des Variétés le 22 novembre 1849, donc pendant la Seconde République. Et cette pièce a rencontré tout de suite beaucoup de succès et a été louée notamment par des critiques importants de l'époque, à savoir Théophile Gautier et Jules Janin. Et à la suite de ce succès, elle a tenu une centaine de représentations, ce qui était quand même énorme à l'époque. Et à la suite de ce succès, Michel Lévy, qui a commencé à éditer dans les années 1845, est venu trouver Murger et lui a proposé un contrat pour publier ses scènes de la vie de Bohème chez lui. Simplement, il a demandé à Murger d'ajouter, puisque ce sont des scènes, on va voir, qui sont tout à fait sans intrigue, sans cohérence, donc pour lui donner une certaine unité, il lui a demandé de faire une préface sur la Bohème, et d'autre part, d'ajouter un chapitre introductif, qui est le premier chapitre, et un chapitre conclusif, qui s'appelle « La jeunesse n'a qu'un temps ». Donc, vous voyez un peu le contexte dans lequel c'est fait. Enfin, vous ne voyez pas le contexte, parce que j'en parlerai dans la deuxième partie. Puisque là, je me limite aux scènes de la vie de Bohème, à la présentation des scènes de la vie de Bohème, et dans la deuxième partie, je présenterai le contexte des scènes, c'est-à-dire comment Murger a été amené à écrire ces scènes, enfin, comment lui est venue cette idée. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que les scènes de la vie de Bohème, contrairement à ce qui est écrit? Alors, il y a une très bonne introduction, mais on parle de roman. Or, ce n'est sûrement pas un roman, dans le sens où il n'y a pas d'intrigue, comme j'ai dit, il n'y a pas de progression romanesque, et les personnages apparaissent beaucoup plus comme des types que comme pourvus d'une psychologie. Bon, on les présente extrêmement rapidement. Si ce n'est pas un roman, qu'est-ce que c'est? C'est donc un feuilleton. Un feuilleton, ça signifie que chaque épisode se suffit à lui-même. C'est un feuilleton, non pas au sens du roman feuilleton, au sens où Eugène Sue, par exemple, pour prendre l'exemple le plus connu, a pu faire un feuilleton avec des épisodes qui se suivent et où, au contraire, la tension est tenue en haleine d'un épisode sur l'autre, puisqu'on s'arrête au milieu d'un épisode pour que le lecteur achète la suite. Là, c'est absolument pas le cas. C'est un feuilleton qui est paru d'une manière très irrégulière dans ce fameux petit journal Le Corsaire Satan. Le premier, sous le titre Scène de la Bohème, le premier feuilleton date de 1845. Le deuxième feuilleton date de 1846. Pour vous dire, si vous voulez, l'irrégularité totale de la parution de ce feuilleton. Puis ensuite, ça s'est enchaîné assez régulièrement, à peu près tous les trois mois. Donc les lecteurs avaient le temps d'oublier, évidemment, les amours de Rodolphe, Mimi, etc. Donc tous les trois mois jusqu'en 48 se succèdent ces scènes. Alors, c'est donc un feuilleton qui raconte, sur un mode humoristique, la vie quotidienne, ou du moins certaines scènes, de la vie d'un quatuor de jeunes gens qui vivent en marge des contraintes sociales, qui vivent entre eux. Ils se veulent artistes, parce que en fait, on voit pas tellement ce qu'ils produisent. On va voir une scène, on va comprendre ce qu'ils produisent. Donc ils se veulent artistes. L'unité des scènes est due à la réapparition de ces personnages qui ont les mêmes noms que dans l'opéra, ou plutôt inversement, l'opéra a repris les noms des scènes, à savoir Schaunard, qui est donc le musicien. Dans les scènes de la vie de Bohème, il est à la fois musicien et peintre. Marcel, qui est le peintre. Rodolphe, dont le nom est peut-être emprunté d'ailleurs à Eugène Sue, au mystère de Paris, puisque le héros s'appelle Rodolphe, le héros très positif. Donc Rodolphe, qui est poète. Et Colline, qui est un philosophe. Alors on a quatre hommes, et ils ont un point commun évidemment, outre leur profession d'artiste ou de littérateur, c'est qu'ils sont jeunes, moins de 25 ans, ça c'est important, et sans argent. Et la plupart du temps, le plus clair de leur temps se passe à tenter de se procurer un peu des moyens de vivre. Et quand ils ont des fonds, parce que ça leur arrive, ils sont toujours, si vous voulez, entre deux extrémités, soit ils n'ont rien, donc ils cherchent de l'argent, soit ils ont de l'argent, donc ils le dépensent. Alors c'est-à-dire c'est une valse incessante entre j'ai de l'argent, je le dépense, donc je n'ai plus d'argent, j'en recherche. Et d'ailleurs Murger, dans sa préface, nous explique ce que c'est que c'est l'existence de ces personnages. Il explique d'une manière un peu didactique, mais pas trop ennuyeuse je pense, la manière dont ils se procurent de l'argent.
Pour arriver à leur but, qui est parfaitement déterminé, tous les chemins sont bons, et les bohèmes savent mettre à profit jusqu'aux accidents de la route. Pluie ou poussière, ombre ou soleil, rien n'arrête ces hardis aventuriers, dont tous les vices sont doublés d'une vertu. L'esprit toujours tenu en éveil par leur ambition, qui bat la charge devant eux et les pousse à l'assaut de l'avenir, sans relâche aux prises avec la nécessité, leur invention, qui marche toujours mèche allumée, fait sauter l'obstacle qu'à peine il les gêne. Leur existence de chaque jour est une œuvre de génie, un problème quotidien qu'ils parviennent toujours à résoudre à l'aide d'audacieuses mathématiques. Ces gens-là se feraient prêter de l'argent par Harpagon et auraient trouvé des truffes sur le radeau de la Méduse. Au besoin, ils savent aussi pratiquer l'abstinence avec toute la vertu d'un anachorète. Mais qu'il leur tombe un peu de fortune entre les mains, vous les voyez aussitôt cavalcader sur les plus ruineuses fantaisies, aimant les plus belles et les plus jeunes, buvant des meilleurs et des plus vieux, et ne trouvant jamais assez de fenêtres par où jeter leur argent. Puis, quand leur dernier écu est mort et enterré, elles recommencent à dîner à la table d'hôte du hasard où leur couvert est toujours mis, et précédées d'une meute de ruses, braconnant dans toutes les industries qui se rattachent à l'art, chassent du matin au soir cet animal féroce qu'on appelle la pièce de 5 francs.
Voilà. Donc vous aurez compris que toutes les scènes en fait se déroulent sur ce principe de la chasse à la pièce de 5 francs de dépense. Bon. Le monde extérieur apparaît peu dans les scènes étant donné qu'ils vivent entre eux. Mais il apparaît quand même sous la forme des bourgeois bien sûr, qui sont crédules et bêtes et qu'il faut essayer de gruger ou alors qu'il faut utiliser. Alors, il y a deux types de bourgeois, il y a ceux qui peuvent faire du tort aux bohèmes et ceux qui peuvent leur faire du bien. Les premiers, ce sont les créanciers, notamment le propriétaire, ennemi avec qui il faut ruser et qu'il faut mettre à mal. Alors là, je n'ai pas pris de scène représentant le propriétaire, mais il y en a plusieurs, mais comme c'était un petit peu long, je n'ai pas choisi de scène, mais vous les lirez vous-même. Je vous signale notamment le cap des tempêtes, qui est le cap qu'il faut franchir, qui est le 15 du mois, en fait, très précisément, moment où l'on doit payer le terme, puisqu'à l'époque, c'était le 7 ou le 15 du mois, le terme. Et donc, c'est toutes les ruses pour essayer de ne pas payer ce terme. Bon, il y a également évidemment le bottier, il y a enfin tous les fournisseurs des bohèmes sont donc des opposants. Ceux qui peuvent aider les bohèmes, ce sont les commanditaires. Les commanditaires, c'est-à-dire Par exemple, ceux qui passent des commandes pour un portrait. Dans un envoyé de la Providence, on a un raffineur en sucre qui arrive de Nantes pour demander à Marcel, qu'on lui a recommandé, de lui tirer le portrait. Donc à ce moment-là, Marcel et Chaunard n'ont plus d'argent, comme d'habitude, et en plus, Chaunard doit sortir dans le monde ce soir-là. Et évidemment, il n'a rien à se mettre. Alors, double problème, que va résoudre l'envoyé de la Providence dans la personne de Monsieur Blancheron.
Monsieur, dit l'inconnu, porteur d'une de ces honnêtes figures qui sont le type du provincial, mon cousin m'a beaucoup parlé de votre talent pour le portrait. Et étant sur le point de faire un voyage aux colonies, où je suis délégué par les raffineurs de la ville de Nantes, je désirerais laisser un souvenir de moi à ma famille. C'est pourquoi je suis venu vous trouver. Ô sainte Providence, murmura Chaunard, Marcel, donne un siège à monsieur. Monsieur Blancheron, reprit l'étranger, Blancheron de Nantes, délégué de l'industrie sucrière, ancien maître de V, capitaine de la garde nationale et auteur d'une brochure sur la question des sucres. Je suis fort honoré d'avoir été choisi par vous, dit l'artiste en s'inclinant devant le délégué des raffineurs. Comment désirez-vous avoir votre portrait ? À la miniature, comme ça, reprit Monsieur Blancheron en indiquant un portrait à l'huile. Car, pour le délégué comme pour beaucoup d'autres, ce qui n'est pas peinture en bâtiment est miniature. Il n'y a pas de milieu. Cette naïveté donna à Chaunard la mesure du bonhomme auquel il avait affaire, surtout quand celui-ci eut ajouté qu'il désirait que son portrait fût peint avec des couleurs fines. « Je n'en emploie jamais d'autres, » dit Chaunard. « De quelle grandeur, monsieur, désire-t-il son portrait ?»« Grand comme ça, » répondit Monsieur Blancheron en montrant une toile de vin. Mais dans quel prix ça va-t-il? De 50 à 60 francs, 50 sans les mains, 60 avec. Diable, mon cousin m'avait parlé de 30 francs. C'est selon la saison, dit le peintre, les couleurs sont beaucoup plus chères à différentes époques. Tiens, c'est donc comme le sucre? Absolument. Va donc pour 50 francs, dit Monsieur Blancheron. Vous avez tort, pour 10 francs de plus vous auriez les mains, dans lesquelles je passerai votre brochure sur la question sucrière, ce qui serait flatteur. Ma foi, vous avez raison. Sacrebleu, dit en lui-même Chaunard, s'il continue, il va me faire éclater, je le blesserai avec un de mes morceaux.
Ça vous donne une idée du style employé par Murzer. Alors, ça, c'est une des possibilités qu'ont les bohèmes de s'en sortir financièrement. Ou bien, Rodolphe, donc le poète, est pourvu d'un oncle qui est fumiste, au sens non pas qu'il ne fait rien du tout, pas du tout, au sens où il s'occupe de poêle. Quand vraiment Rodolphe ne sait plus où aller, ne sait plus où donner de la tête, il va chez son oncle et lui demande un peu d'argent. Il y a aussi, parmi les gens crédules, un jeune homme qui s'appelle Carolus Berbemuche, qui est répétiteur dans une maison bourgeoise et qui va prêter aussi de l'argent aux bohèmes de manière à être introduit dans le cénacle. Bien, alors, comme je vous l'ai dit, il est peu question de l'œuvre que projettent les bohèmes. Rodolphe a écrit un drame en vers, ça on le sait, qui s'appelle Le Vengeur. Et alors là, on a une scène que Puccini reprend d'ailleurs, qu'il brûle un soir de grand froid sans en éprouver de regret. C'est la premier acte de Puccini, justement, où les bohèmes sont gelés, enfin Marcel et Rodolphe sont gelés, et il brûle progressivement, il jette au feu son manuscrit. Alors on va lire le...
Rodolphe tira de dessous son lit un amas considérable de papiers, parmi lesquels se trouvait une dizaine de manuscrits énormes de son fameux drame du Vengeur. Ce drame auquel il avait travaillé 2 ans avait été fait, défait, refait tant de fois que les copies réunies formaient un poids de 7 kilogrammes. Rodolphe mit de côté le manuscrit le plus récent et traîna les autres devant la cheminée. « J'étais bien sûr que j'en trouverais le placement, s'écria-t-il, avec de la patience. Voilà certainement un joli coquetrait de prose. Ah, si j'avais pu prévoir ce qui arrive, j'aurais fait un prologue, et aujourd'hui j'aurais plus de combustible. Mais, bah, on ne peut pas tout prévoir. » Et il alluma dans sa cheminée quelques feuilles du manuscrit à la flamme desquelles il se dégourdit les mains. Au bout de 5 minutes, le premier acte du Vengeur était joué, et Rodolphe avait écrit 3 vers de son épitaphe. Rien au monde ne saurait peindre l'étonnement des 80 cardinaux en apercevant du feu dans la cheminée. C'est une illusion, souffla le vent du nord qui s'amusa à rebrousser le poil de Rodolphe. Si nous allions souffler dans le tuyau, reprit un autre vent, ça ferait fumer la cheminée. Mais comme ils allaient commencer à tarabuster le pauvre Rodolphe, le vent du sud aperçut M. Arago à une fenêtre de l'observatoire où le savant faisait du doigt une menace au quatuor d'Aquilon. Aussi le vent du sud cria à ses frères, « Sauvons-nous bien vite, l'almanach marque un temps calme pour cette nuit. Nous nous trouvons en contravention avec l'observatoire, et si nous ne sommes pas rentrés à minuit, M. Arago nous fera mettre en retenue. » Pendant ce temps-là, le deuxième acte du Vengeur brûlait avec le plus grand succès. Et Rodolphe avait écrit 10 vers, mais il ne put en écrire que 2 pendant la durée du troisième acte. « J'avais toujours pensé que cet acte-là était trop court, » murmura Rodolphe, « mais il n'y a qu'à la représentation qu'on s'aperçoive d'un défaut. Heureusement que celui-ci va durer plus longtemps. Il y a 23 scènes, dont la scène du trône qui devait être celui de ma gloire. La dernière tirade de la scène du trône s'envolait en flamèche, comme Rodolphe avait encore un sixain à écrire. « Passons au quatrième acte, » dit-il en prenant un air de feu. « Il durera bien 5 minutes. C'est tout monologue. » Il passa au dénouement qui ne fut que flamber et s'éteindre. Au même moment, Rodolphe encadrait dans un magnifique élan de lyrisme les dernières paroles du défunt en l'honneur de qui il venait de travailler. « Il en restera pour une seconde représentation, » dit-il en poussant sous son lit quelques autres manuscrits.
Bon, donc vous voyez l'usage qu'on peut faire des manuscrits, enfin du travail fourni par soi-même. Et quant à Marcel, donc le peintre, vous avez vu aussi d'ailleurs tout à l'heure que Chaunard, qui est le musicien, était aussi le peintre dans la scène avec le raffineur en sucre, ce qui montre aussi combien les personnages sont peu caractérisés, puisque ils peuvent être aussi bien peintres que musiciens. Il y a des possibilités tout à fait d'aller de l'un à l'autre, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils n'ont pas de... Ils sont pas clairement définis. Donc Marcel, qui est quand même le peintre du livre, peint et repeint pour le salon le même tableau qu'il présente chaque année au jury sous des titres différents en changeant quelques éléments. Finalement, on va le voir, sa grande œuvre va devenir une enseigne d'un fabricant de comestibles. Marcel d'ailleurs en sera très heureux. Alors là, c'est le passage de la mer Rouge.
Depuis 5 ou 6 ans... Marcel travaillait à ce fameux tableau qu'il affirmait devoir représenter le passage de la mer Rouge, et depuis 5 ou 6 ans, ce chef-d'œuvre de couleur était refusé avec obstination par le jury. Aussi, à force d'aller et de revenir de l'atelier de l'artiste au musée et du musée à l'atelier, le tableau connaissait si bien le chemin que si on l'eût placé sur des roulettes, il eût été en état de se rendre tout seul au Louvre. Marcel, qui avait refait 10 fois et du haut en bas remanié cette toile, attribuait à une hostilité personnelle des membres du jury l'ostracisme qui le repoussait annuellement du salon carré. Et dans ces moments perdus, il avait composé en l'honneur des Cerbères de l'Institut un petit dictionnaire d'injures avec des illustrations d'une férocité aiguë. Ce recueil, devenu célèbre, avait obtenu dans les ateliers à l'école des Beaux-Arts le succès populaire qui s'est attaché à l'immortelle complainte de Jean Bélin, peintre ordinaire du grand sultan des Turcs. Tous les rapins de Paris en avaient un exemplaire dans leur mémoire. Pendant longtemps, Marcel ne s'était pas découragé des refus acharnés qu'il accueillait à chaque exposition. Il s'était confortablement assis dans cette opinion que son tableau était, dans des proportions moindres, le pendant attendu par les noces de Cana, ce gigantesque chef-d'œuvre dont la poussière de 3 siècles n'a pu ternir l'éclatante splendeur. Aussi, chaque année, à l'époque du salon, Marcel envoyait son tableau à l'examen du jury. Seulement, pour dérouter les examinateurs et tâcher de les faire faillir dans le parti pris d'exclusion qu'ils paraissaient avoir envers le passage de la mer Rouge, Marcel, sans rien déranger à la composition générale, modifiait quelques détails et changeait le titre de son tableau. Ainsi, une fois, il arriva devant le jury sous le nom du « Passage du Rubicon ». Mais Pharaon, mal déguisé sous le manteau de César, fut reconnu et repoussé avec tous les honneurs qui lui étaient dus. L'année suivante, Marcel jeta sur un des plans de sa toile une couche de blanc simulant la neige. planta un sapin dans un coin et, habillant un Égyptien en grenadier de la garde impériale, baptisa son tableau « Passage de la Bérézina ». Le jury qui avait ce jour-là récuré ses lunettes sur le parement de son habit à palme verte, ne fut point dupe de cette nouvelle ruse. Il reconnut parfaitement la toile obstinée, surtout un grand diable de cheval multicolore qui se cabrait au bout d'une vague de la mer Rouge. La robe de ce cheval servait à Marcel pour toutes ses expériences de coloris, et dans son langage familier, il l'appelait « tableau synoptique des tons fins », parce qu'ils reproduisaient, avec leur jeu d'ombre et de lumière, toutes les combinaisons les plus variées de la couleur. Mais une fois encore, insensible à ce détail, le jury n'eut pas assez de boules noires pour refuser le passage de la Bérézina. « Très bien, dit Marcel, je m'y attendais. L'année prochaine, je le renverrai sous le titre de « Passage des panoramas ». Ils seront très bien attrapés, trappés, attrape, trappe, chantonna le musicien Chonard sur un air nouveau de sa composition, un air terrible, bruyant comme une gamme de coups de tonnerre et dont l'accompagnement était redouté de tous les pianos circonvoisins.
Alors, vous avez vu tout le passage, du passage en passage, et à ce moment-là, ce n'est pas terminé la scène évidemment, arrive un juif, qui est Médicis, qui représente en fait le marchand de tableaux, qui est le marchand de tableaux, mais qui tient aussi un bric-à-brac et qui va proposer ses services à Marcel. Alors là,
quelques jours après, comme Marcel avait déjà oublié ses terribles plans de vengeance contre ses persécuteurs, il reçut la visite du père Médicis. On appelait ainsi dans le cénacle un juif nommé Salomon et qui, à cette époque, était très connu de toute la bohème artistique et littéraire avec qui il était en perpétuel rapport. Le père Médicis négociait dans tous les genres de bric-à-brac. En entrant chez les bohèmes, avec cet air intelligent qui le distinguait, le juif avait deviné qu'il arrivait à un moment propice. En effet, les quatre amis se trouvaient en ce moment réunis en conseil et, sous la présidence d'un appétit féroce, dissertaient la grave question du pain et de la viande. C'était un dimanche de la fin du mois, jour fatal et quantième sinistre. L'entrée de Médicis fut donc acclamée par un joyeux chorus, car on savait que le juif était trop avare de son temps pour le dépenser en visite de politesse. Aussi sa présence annonçait-elle toujours une affaire à traiter. « Bonsoir, messieurs, dit le juif, comment vous va ?»« Colline, dit Rodolphe, couché sur son lit et engourdi dans les douceurs de la ligne horizontale, exerce les devoirs de l'hospitalité, offre une chaise à notre hôte, un hôte est sacré. Je vous salue en Abraham, ajouta le poète. » Colline alla prendre un fauteuil qui avait l'élasticité du bronze, et il avança près du juif en lui disant avec une voix hospitalière, « Supposez un instant que vous êtes Sinna et prenez ce siège. » Médicis se laissa tomber dans le fauteuil et allait se plaindre de sa dureté lorsqu'il se ressouvint que lui-même l'avait jadis changé avec Colline contre une profession de foi vendue à un député qui n'avait pas la corde de l'improvisation. En s'asseyant, les poches du juif résonnèrent d'un bruit d'argentin, et cette mélodieuse symphonie jeta les quatre bohèmes dans une rêverie pleine de douceur. « Voyons la chanson maintenant, dit Rodolphe tout bas à Marcel. L'accompagnement paraît joli. »« Monsieur Marcel, fit Médicis, je viens simplement faire votre fortune. » C'est-à-dire que je viens vous offrir une occasion superbe d'entrer dans le monde artistique. L'art, voyez-vous bien, monsieur Marcel, est un chemin aride dont la gloire est l'oasis. Père Médicis, dit Marcel sur les charbons de l'impatience, au nom de 50%, votre patron vénéré, soyez bref. Oui, dit Colline, bref ainsi que le roi Pépin qui était un circoncis comme vous, car vous devez l'être, circoncis, fils de Jacob. « Ouh, ouh !» firent les bohèmes en regardant si le plancher ne s'entrouvrait pas pour engloutir le philosophe. Mais Colline ne fut pas encore engloutie cette fois. « Voici l'affaire, reprit Médicis. Un riche amateur qui monte une galerie destinée à faire le tour de l'Europe m'a chargé de lui procurer une série d'œuvres remarquables. Je viens vous offrir vos entrées dans ce musée. En un mot, je viens pour vous acheter votre passage de la mer Rouge. »« Content ?» dit Marcel. content, répondit le juif en faisant jouer l'orchestre de ses goussets. L'es-tu content, dit Colline. Décidément, fit Rodolphe furieux, il faudra se procurer une poire d'angoisse pour fermer le soupirail à sottise de ce gueux-là. Brigand, ne vois-tu pas qu'il cause d'écus? Il n'y a donc rien de sacré pour toi, athée. Colline monta sur un meuble et prit la pose d'Harpocrate, dieu du silence. Continuez, Médicis, dit Marcel en montrant son tableau. Je vais vous laisser l'honneur de fixer vous-même le prix de cette œuvre qui n'en a pas. Le juif posa sur la table 50 écus en bel argent neuf. Après, dit Marcel, c'est l'avant-garde. Monsieur Marcel, dit Médicis, vous savez bien que mon premier mot est toujours mon dernier. Je n'ajouterai rien. Réfléchissez. 50 écus, cela fait 150 francs. C'est une somme, ça. Une faible somme, reprit l'artiste. Rien que dans la robe de mon pharaon, il y a pour 50 écus de cobalt. Payez-moi au moins la façon, égalisez les piles, arrondissez le chiffre et je vous appellerai Léon X bis. Voici mon dernier mot, reprit Médicis, je n'ajoute pas un sou de plus. Mais j'offre à dîner à tout le monde, va varier à discrétion, et au dessert, je paye en or. Personne ne dit mot, hurla Colline en frappant trois coups de poing sur la table. Adjugé. Allons, dit Marcel, convenu. Je ferai prendre le tableau demain, fit le juif. Partons, messieurs, le couvert est mis. Les quatre amis descendirent l'escalier en chantant le chœur des Huguenots, à table, à table. Médicis traita les bohèmes d'une façon tout à fait magnifique. Il leur offrit une foule de choses qui jusque-là étaient restées pour eux complètement inédites. Ce fut à compter de ce dîner que le homard cessa d'être un mythe pour Chonard, et il contracta dès lors pour cet amphibie une passion qui devait aller jusqu'au délire. Les quatre amis sortirent de ce splendide festin ivres comme un jour de vendange. Cette ivresse faillit même avoir des suites déplorables pour Marcel qui, en passant devant la boutique de son tailleur à 2 heures du matin, voulait absolument éveiller son créancier pour lui donner en acompte les 150 francs qu'il venait de recevoir. Une lueur de raison qui veillait encore dans l'esprit de Colline retint l'artiste au bord de ce précipice. 8 jours après ce festival, Marcel apprit dans quelle galerie son tableau avait pris place. En passant dans le faubourg Saint-Honoré, il s'arrêta au milieu d'un groupe qui paraissait regarder curieusement la pose d'une enseigne au-dessus d'une boutique. Cette enseigne n'était autre chose que le tableau de Marcel, vendu par Médicis à un marchand de comestibles. Seulement, le passage de la mer Rouge avait encore subi une modification et portait un nouveau titre. On y avait ajouté un bateau à vapeur. Et il s'appelait « Au port de Marseille ». Une ovation flatteuse s'était élevée parmi les curieux quand on avait découvert le tableau. Aussi Marcel se retourna-t-il ravi de ce triomphe et murmura « La voix du peuple, c'est la voix de Dieu ».
Voilà donc l'histoire. Mais je trouve que c'est intéressant aussi le titre même, « Passage de la mer Rouge, passage de la Bérésina », etc. Parce que, en fait, ce que vivent les bohèmes, c'est justement un temps du passage, c'est-à-dire le passage entre une situation de l'enfance, si vous voulez, et une situation stable, qui sera celle, par une sorte de retournement impossible à expliquer, de la fin, puisque dans l'épilogue, tous les bohèmes seront rangés, et Marcel aura vu son tableau reçu au salon, Chonard aura vu une partition jouée et Rodolphe aura vendu à un éditeur, aura trouvé un éditeur pour un recueil de vers. Quant à Colline, le philosophe, il sera marié et il donnera des soirées à petits gâteaux. Donc vous voyez qu'il sera en quelque sorte entretenu par sa femme, à moins que ce soit l'inverse. Donc vous voyez que les scènes, ce que vivent les bohèmes, c'est un temps très bref qui va de l'adolescence à l'âge adulte, et c'est pourquoi le titre même choisi, qui est peut-être tout à fait involontaire choisi par Murger pour caractériser le tableau de transformation de Marcel, le passage, me paraît assez révélateur. En ce qui concerne les bohèmes, évidemment, ne sont pas seuls, vous vous en doutez, et ils partagent leur vie avec des jeunes femmes qui sont leurs compagnes et qui sont très différentes de l'opéra, puisque dans l'opéra, vous savez, il y a un couple qui est le couple rageux, le couple comique en quelque sorte, qui est Musette et Marcel, et puis un couple dramatique, un couple fidèle qui est celui de Mimi et de Rodolphe. Au contraire, dans le roman, on a les personnages féminins qui ne sont pas seulement Mimi, Musette, il y a également Fémi, mais il y a également d'autres jeunes femmes qui traversent notamment la vie de Rodolphe. Elles ont toutes en commun d'être volages et elles n'hésitent
à abandonner leurs compagnons quand de meilleures fortunes se présentent. Leurs noms même, Mimi, Musette, Fémi, par exemple, enfin les noms des principales, ne sont pas des noms de personnages réels. Ce sont bien évidemment des noms empruntés au répertoire des romances ou du feuilleton.
C'était donc une brave et belle fille que Musette, qui en amour adoptait la moitié du célèbre aphorisme de Champfort, l'amour est l'échange de deux fantaisies. Aussi jamais ces liaisons n'avaient été précédées d'un de ces honteux marchés qui déshonorent la galanterie moderne. Comme elle le disait elle-même, Musette jouait franc jeu et exigeait qu'on lui rendît la monnaie de sa sincérité. Mais si ses fantaisies étaient vives et spontanées, elles n'étaient jamais assez durables pour arriver à la hauteur d'une passion. Et la mobilité excessive de ses caprices, le peu de soin qu'elle apportait à regarder la bourse et les bottes de ceux qui lui en voulaient compter, apportait une grande mobilité dans son existence, qui était une perpétuelle alternative de coupés bleus et d'omnibus, d'entresol et de cinquième étage, de robes de soie et de robes d'indienne. Oh, fille charmante, poème vivant de jeunesse, au rire sonore et au chant joyeux, cœur pitoyable, battant pour tout le monde sous la guimpe entrebâillée. Oh, mademoiselle Musette, vous qui êtes la sœur de Bernerette et de Mimi Pinson, il faudrait la plume d'Alfred de Musset pour raconter dignement votre insouciante et vagabonde course dans les sentiers fleuris de la jeunesse. Et certainement, il aurait voulu vous célébrer aussi si, comme moi, il vous avait entendu chanter de votre jolie voix fausse ce rustique couplet d'une de vos rondes favorites. C'était un beau jour de printemps que je me déclarais l'amant, l'amant d'une brunette au cœur de Cupidon, portant fine cornette posée en papillon.
Voilà. Donc vous avez remarqué l'allusion à Musset. Du reste, quand il présente Mimi, Murger lui-même fait allusion à Musset qui avait écrit en 1844 une célèbre Mimi Pinson qui était l'histoire d'une grisette. Mais ce qui est aussi intéressant en ce qui concerne Musette, c'est que il dit au début donc que cet amour n'était pas dégradé par les honteux marchandages qui accompagnent ces gens d'amour. À savoir que Musette comme Mimi comme les autres sont à mi-chemin entre la grisette et la lorette. La grisette et la lorette, ce sont deux types parisiens qui ont certainement évidemment des racines dans la réalité, mais qui sont devenus des types littéraires, qui sont d'une part, la grisette représente la jeune ouvrière parisienne qui a un état, c'est-à-dire qui est soit marchande de fleurs, ou bien qui est ouvrière à façon à domicile, ou bien qui va dans un atelier. Elle travaille généralement dans des métiers de l'artisanat, qui ont un rapport avec la mode. Et cette jeune ouvrière habite le plus souvent dans une mansarde et fréquente les étudiants et les artistes. La lorette, au contraire, c'est la femme entretenue par des bourgeois cossus. Et comme vous savez, on les appelle les lorettes à cause du quartier Notre-Dame de Lorette, qui venait de se terminer sous la monarchie de Juillet. Et on disait que les lorettes étaient venues y habiter pour essuyer les plâtres. Donc, ce qui explique le terme lorette. On appelle d'ailleurs aussi souvent les lorettes des Bréda, à cause de la rue Bréda qui se trouve dans le quartier de Notre-Dame de Lorette. Donc ce qui menace ces jeunes filles, c'est évidemment de devenir des lorettes, et elles sont bien sur la pente de le devenir, notamment Mimi qui dans les scènes est bien pire d'une certaine manière que Musette. Et on va voir d'ailleurs la manière dont elle est présentée par Murger.
Rodolphe rencontra donc la jeune Mimi qu'il avait jadis connue alors qu'elle était la maîtresse d'un de ses amis, et il en fit la sienne. Ce fut d'abord un grand haro parmi les amis de Rodolphe lorsqu'ils apprirent son mariage. Mais comme mademoiselle Mimi était fort avenante, point du tout bégueule, et supportait sans mots de tête la fumée de la pipe et les conversations littéraires, on s'accoutuma à elle et on la traita comme une camarade. Mimi était une charmante femme et d'une nature qui convenait particulièrement aux sympathies plastiques et poétiques de Rodolphe. Elle avait 22 ans, elle était petite, délicate, mièvre. Son visage semblait l'ébauche d'une figure aristocratique. Mais ses traits, d'une certaine finesse et comme doucement éclairés par les lueurs de ses yeux bleus et limpides, prenaient en de certains moments d'ennui ou d'humeur un caractère de brutalité presque fauve, où un physiologiste aurait peut-être reconnu l'indice d'un profond égoïsme ou d'une grande insensibilité. Mais c'était le plus souvent une charmante tête au sourire jeune et frais, au regard tendre ou plein d'impérieuse coquetterie. Au bout d'un mois,
c'est là que les choses se
Au bout d'un mois, Rodolphe commença à s'apercevoir qu'il avait épousé une tempête et que sa maîtresse avait un grand défaut. Elle voisinait, comme on dit, et passait une grande partie de son temps chez des femmes entretenues du quartier dont elle avait fait la connaissance. Il en résulta bientôt ce que Rodolphe avait craint lorsqu'il s'était aperçu des relations contractées par sa maîtresse. L'opulence variable de quelques-unes de ses amies nouvelles avait fait naître une forêt d'ambition dans l'esprit de Mademoiselle Mimi, qui jusque-là n'avait eu que des goûts modestes et se contentait du nécessaire que Rodolphe lui procurait de son mieux. Mimi commença à rêver la soie, le velours et la dentelle, et malgré les défenses de Rodolphe, elle continua à fréquenter les femmes qui toutes étaient d'accord pour lui persuader de rompre avec le bohémien qui ne pouvait pas seulement lui donner 150 francs pour s'acheter une robe de drap.
Oui. Et bien entendu, Mimi va quitter Rodolphe un peu plus tard dans le roman pour un vicomte, le vicomte Paul. De même que Musette, d'ailleurs, a aussi quitté Marcel pour un autre... Je ne sais pas si c'est un vicomte, en fait. Oui, je crois qu'ils ont... Je me demande si c'est pas le même, en fait.
Non, c'est pas le même, je crois.
Ils ont... Non, c'est pas le même, ils sont tous les deux vicomtes. Le roman n'est pas du tout moralisant. C'est-à-dire que c'est considéré comme une chose normale, que ces jeunes filles, ces jeunes femmes, qui n'ont pas de, d'argent, finalement, qui vivent d'une manière totalement marginale, comme les bohèmes, changent, enfin, essayent de chercher... quelque chose qui leur convienne le mieux. À aucun moment, Murger ne porte un jugement, contrairement à ce qui pourrait se, à ce qui se passe, par exemple, dans la vie de bohème, la pièce de théâtre qu'il a tirée de son roman, et où là, Mimi, au contraire, incarne la fidélité par rapport à Musette, qui est la jeune fille volage, la jeune femme volage, etc., qui prend des amants. Il y a une volonté, je pense, quand les scènes sont adaptées, les scènes qui sont donc faites pour un petit journal avec un public, qui est un public de, surtout d'artistes, de littérateurs, etc., il y a une volonté de moralisation qui est complètement absente des scènes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Les amours des bohèmes sont donc éphémères par principe et par nécessité. On se prend, on se quitte avec la même simplicité, sans drame et sans larmes. Et d'ailleurs, on va voir que tout d'un coup, il va y avoir une épidémie de divorce qui s'abatte chez les bohèmes, chez les quatre bohèmes. Alors, vous allez voir pour quel motif. Voilà.
Cependant, après 6 mois de vie en commun, une épidémie de divorce s'abattit tout à coup sur les ménages. Chonard ouvrit la marche. Un jour, il s'aperçut que Fémy, teinturière, avait un genou mieux fait que l'autre. Et comme, en fait de plastique, il était d'un purisme austère, il renvoya Fémy, lui donnant pour souvenir la canne avec laquelle il lui faisait de si fréquentes observations. Puis, il retourna demeurer chez un parent qui lui offrait un logement gratis. 15 jours après, Mimi quittait Rodolphe pour monter dans les carrosses du jeune vicomte Paul, l'ancien élève de Carolus Barbemuche qui lui avait promis des robes couleur du soleil. Après Mimi, ce fut Musette qui prit la clé des champs et rentra à grand bruit dans l'aristocratie du monde galant qu'elle avait quitté pour suivre Marcel. Cette séparation eut lieu sans querelle, sans secousse, sans préméditation, née d'un caprice qui était devenu de l'amour. Cette liaison fut rompue par un autre caprice. Un soir du carnaval, au bal masqué de l'opéra, où elle était allée avec Marcel, Musette eut pour vis-à-vis dans une contredanse un jeune homme qui autrefois lui avait fait la cour. Ils se reconnurent et, tout en dansant, échangèrent quelques paroles. Sans le vouloir peut-être, en instruisant ce jeune homme de sa vie présente, laissa-t-elle échapper un regret sur sa vie passée. Tant fut-il qu'à la fin du quadrille, Musette se trompa. Et au lieu de donner la main à Marcel qui était son cavalier, elle prit la main de son vis-à-vis, qui l'entraîna et disparut avec elle dans la foule.
Voilà, donc vous avez vu que c'est presque involontaire, ces séparations. Alors, ça c'est un peu les personnages, je pense que vous les avez bien dans la tête. Et aussi important que les personnages sont les lieux qu'ils occupent ou qu'ils traversent, en un incessant balai. Ces lieux sont tous urbains, mis à part quelques parties de campagne dans la proche banlieue, ces parties campagne étant favorisées par le début des chemins de fer. Alors, les lieux sont très très simples, ce sont des mansardes interchangeables du quartier latin qui favorisent les rencontres et les amours, puisque traditionnellement, et la Murger en général se conforme à cette tradition, les grisettes rencontrent les artistes dans des mansardes. Ce sont des cafés,
et des tables d'hôtes, des barrières. Les barrières, c'était donc ce qui entourait Paris. Par exemple, c'était il y a la barrière du Maine, la barrière, enfin bon, vous voyez les barrières de Ledoux. Il en reste quelques-unes, notamment une qui se trouve à Stalingrad. Bon. Donc là se trouvaient des cafés moins chers et des tables d'hôtes moins chères qu'à Paris pour la raison qu'on n'avait pas à payer d'octroi pour le vin. Puisqu'il fallait payer un droit d'octroi pour l'entrée du vin. Donc les tables d'hôtes, c'est-à-dire les restaurants qui étaient installés à cette frontière parisienne, pouvaient demander un tarif moins élevé puisque eux-mêmes ne payaient rien au fisc. Les cafés, c'est notamment un des cafés le plus célèbre dans le roman, c'est le café Momus, qui existait vraiment, qui se trouvait en face de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et très curieusement d'ailleurs, il se trouvait au rez-de-chaussée et le journal des débats, qui est un journal très sérieux, se trouvait au premier étage. C'est un café où vraiment les Murgeurs et ses compagnons, ce qu'on va voir dans la deuxième partie, se rencontraient. Ce qu'on a également, ce sont les bals du quartier latin, c'est-à-dire le Prado, qui était un bal qui était situé très exactement dans l'île de la Cité, la Closerie des Lilas à l'emplacement actuelle de la Closerie des Lilas, et la Grande Chaumière qui se trouvait un peu plus loin dans le boulevard Montparnasse. Quant aux parties de campagne, donc on en voit peu, mais il y en a une à Saint-Germain et une à Fontenay-aux-Roux.
On ne disait pas, voilà Monsieur Chonard, mais bien, voilà le 1er ou le 15 du mois. Pour faciliter et égaliser en même temps cette espèce de dîme qu'il allait prélever lorsque la nécessité l'y forçait sur les gens qui avaient le moyen de la lui payer, Chonard avait dressé par ordre de quartier et d'arrondissement un tableau alphabétique où se trouvaient les noms de tous ses amis et connaissances. En regard de chaque nom était inscrit le maximum de la somme qu'il pouvait leur emprunter relativement à leur état de fortune, les époques où ils étaient en fond et l'heure des repas avec le menu ordinaire de la maison. Outre ce tableau, Chonard avait encore une petite tenue de livres parfaitement en ordre et sur laquelle il tenait état des sommes qui lui étaient prêtées jusqu'aux plus minimes fractions, car il ne voulait pas se grever au-delà d'un certain chiffre qui était encore au bout de la plume d'un oncle normand dont il devait hériter. Dès qu'il devait 20 francs à un individu, Chonard arrêtait son compte et le soldait intégralement d'un seul coup, dut-il, pour s'acquitter, emprunter à ceux auxquels il devait moins. De cette matière, il entretenait toujours sur la place un certain crédit, qu'il appelait sa dette flottante. Et comme on savait qu'il avait l'habitude de rendre dès que ses ressources personnelles le lui permettaient, on l'obligeait volontiers quand on le pouvait.
Voilà. Donc vous avez remarqué que bien que Chonard soit un bohème, c'est-à-dire ne fasse aucune attention à ses habits, etc., malgré tout, il tient un compte extrêmement précis de ce qu'il doit. Il y a une sorte de contradiction entre les deux. Rodolphe, mais ça on va pas le lire parce que ça serait peut-être un peu long, Rodolphe se procure de l'argent, par exemple, un soir, en composant une épitaphe pour une veuve du quartier, qui souhaite faire graver sur la tombe de son mari, donc quelque chose d'assez beau, enfin d'assez triste et en même temps d'assez bon marché. Et Rodolphe est l'homme qu'il lui faut et le lui réalise. Quand ils ont de l'argent, les bohèmes les dépensent, en fait, et en fantaisie totalement inutile. On va lire le passage où Rodolphe, qui vient de recevoir un pactole, une grosse somme d'argent, décide de l'employer cette fois-ci avec beaucoup de circonspection, ah oui, et de sortir de la bohème avec l'argent qu'il possède. Alors, il fait part de ses projets à Marcel.
À l'abri des embarras matériels de la vie, je travaillais sérieusement. J'achèverai ma grande machine et je me poserai carrément dans le pignon. D'abord, je renonce à la bohème, je m'habille comme tout le monde, j'aurai un habit noir, j'irai dans les salons. Si tu veux marcher dans ma voie, nous continuerons à demeurer ensemble, mais il faudra adopter mon programme. La plus stricte économie présidera à notre existence. En sachant nous arranger, nous aurons devant nous 3 mois de travail assurés sans aucune préoccupation. Mais il faut de l'économie. Mon ami, dit Marcel, l'économie est une science qui est seulement à la portée des riches, ce qui fait que toi et moi, nous en ignorons les premiers éléments. Cependant, en faisant une avance de fonds de 6 francs, nous achèterons les œuvres de M. Jean-Baptiste Say, qui est un économiste très distingué, et nous enseignera peut-être la manière de pratiquer cet art. Tiens, tu as une pipe turque, toi.
Oui, dit Rodolphe, je l'ai achetée 25 francs.
Comment? Tu mets 25 francs à une pipe? Et tu parles d'économie?
Et ceci en est certainement une, répondit Rodolphe. Je cassais tous les jours une pipe de 2 sons. À la fin de l'année, cela constituait une dépense bien plus forte que celle que je viens de faire. C'est donc en réalité une économie. Au fait, dit Marcel, tu as raison. Je n'aurais pas trouvé celle-là. En ce moment, une horloge voisine sonne à 6 heures. Dînons vite, dit Rodolphe, je veux dès ce soir me mettre en route. Mais à propos de dîner, je fais une réflexion. Nous perdons tous les jours un temps précieux à faire notre cuisine. Or, le temps est la richesse du travailleur. Il faut donc en être économe. À compter d'aujourd'hui, nous prendrons nos repas en ville. Oui, dit Marcel, il y a 20 pas d'ici un excellent restaurant. Il est un peu cher, mais comme il est notre voisin, la course sera moins longue et nous nous rattraperons sur le gain du temps. Nous irons aujourd'hui, dit Rodolphe, mais demain ou après, nous aviserons à adopter une mesure encore plus économique. Au lieu d'aller au restaurant, nous prendrons une cuisinière. Non, non, interrompit Marcel, nous prendrons plutôt un domestique qui sera en même temps notre cuisinier. Vois un peu les immenses avantages qui en résulteront. D'abord, notre ménage sera toujours fait, il cirera nos bottes, il lavera nos pinceaux, il fera nos commissions. Je tâcherai même de lui inculquer le goût des beaux-arts et j'en ferai mon rapin. De cette façon, à nous deux, nous économiserons au moins 6 heures par jour en soins et en occupations qui seraient d'autant nuisibles à notre travail. Ah, fit Rodolphe, j'ai une autre idée. Moi, allons dîner. 5 minutes après, les deux amis étaient installés dans un des cabinets de restaurant voisin et continuaient à diviser d'économie. Voici quelle est mon idée. Si, au lieu de prendre un domestique, nous prenions une maîtresse, hasarda Rodolphe. Une maîtresse pour deux, fit Marcel avec effroi. Ce serait l'avarice portée jusqu'à la prodigalité. Et nous dépenserions nos économies à acheter des couteaux pour nous égorger l'un l'autre. Je préfère le domestique. D'abord, cela donne de la considération.
En une semaine, tout le pactole va être évidemment dépensé. D'ailleurs, en dépenses diverses, parce qu'à la fin, ils essayent de comprendre comment ils ont pu arriver à dépenser la somme énorme qu'ils avaient. Et ils ont tenu effectivement des comptes. Mais bon, alors, il y a le restaurant, il y a le domestique qui les vole, bien entendu. Mais alors, il y a des dépenses diverses. Et alors, ces dépenses diverses, chaque jour, ça fait à peu près le maximum de la somme. Ce qui veut dire que, finalement, ils sont incapables, évidemment, d'économiser. Mais c'est ça aussi qui fait sans doute leur intérêt. Par contre, à la fin du roman, je pense quand même qu'il faut qu'on termine sur une note mi-amère, mi-gaie, que je vous dise qu'entre-temps, Mimi est morte à l'hôpital et elle est revenue voir, alors là c'est une scène assez proche d'ailleurs de Puccini, elle est revenue voir Rodolphe pour lui dire que finalement elle l'aimait et puis elle s'éteint, mais elle ne s'éteint pas chez Rodolphe, elle s'éteint à l'hôpital et Rodolphe, il y a une histoire atroce d'ailleurs, c'est que Rodolphe va la voir à l'hôpital et on lui dit, ah ben elle est déjà partie, elle est déjà morte et puis... On l'a emmené, donc il retourne chez lui désespéré. Une semaine après, il retourne à l'hôpital et il rencontre son ami médecin par hasard qui lui dit « Non, non, je m'étais trompé, elle est toujours là, elle est toujours vivante. » Il repart à l'hôpital et il apprend que cette fois-ci, effectivement, elle est morte et à la fosse commune, qu'on l'a enterrée à la fosse commune. Donc ça, c'est la note un peu triste des scènes. Et un an après, les bohèmes font leur entrée sur la scène officielle, c'est-à-dire que ils deviennent des gens tout à fait respectables. Alors, j'aimerais quand même qu'on le lise peut-être.
Un an après la mort de Mimi, Rodolphe et Marcel, qui ne s'étaient pas quittés, inauguraient par une fête leur entrée dans le monde officiel. Marcel, qui avait enfin pénétré au salon, y avait exposé 2 tableaux, dont l'un avait été acheté par un riche Anglais qui, jadis, avait été l'amant de Musette. Du produit de cette vente et celui d'une commande du gouvernement, Marcel avait en partie liquidé les dettes de son passé. Il s'était meublé un logement convenable et avait un atelier sérieux. Presque en même temps, Chonard et Rodolphe arrivaient devant le public qui fait la renommée et la fortune, l'un avec un album de mélodies qui fut chanté dans tous les concerts et qui commença sa réputation, et l'autre avec un livre qui occupa la critique pendant 1 mois. Quant à Barbemuche, il avait depuis longtemps renoncé à la bohème. Gustave Colline avait hérité et fait un mariage avantageux. Il donnait des soirées à musique et à gâteau.
Voilà. Marcel revient chez Rodolphe une dernière fois pour lui annoncer qu'en fait, Musette se marie. Musette qui, elle, ne s'est pas éteinte. Et c'est la fin des scènes.
qui se termine sur, je crois, la dernière réflexion.
Si tu veux, dit Rodolphe, nous irons dîner à 12 sous dans notre ancien restaurant de la rue du Four, là où il y a des assiettes en faïence de village et où nous avions si faim quand nous avions fini de manger. Ma foi non, répliqua Marcel. Je veux bien consentir à en regarder le passé, mais ce sera au travers d'une bouteille de vrai vin et assis dans un bon fauteuil. Qu'est-ce que tu veux? Je suis incorrompu. Je n'aime plus que ce qui est bon.
Voilà. Ce dont j'aimerais vous parler dans la deuxième partie, c'est d'où viennent ces scènes, en fait. Parce que, bon, vous avez compris que c'est un assemblage de feuilletons, que vous avez vu aussi le style qui est toujours complètement distancié et très parodique. Vous avez vu aussi les héros, un peu de quoi il s'agissait, qu'il n'y avait absolument pas cette espèce de dramatisation qui se trouve chez Puccini, mais au contraire une sorte d'indulgence amusée. Vous avez vu aussi que la plupart des scènes étaient fondées sur le burlesque, c'est-à-dire sur le mélange des genres, sur le tragicomique, si vous voulez. Alors, ces scènes, en fait, sont la transposition d'une réalité vécue par Murger et par une génération d'artistes et d'écrivains qui essayent, dans les années 40, de se frayer une voie dans le domaine culturel. Et c'est une génération en ce sens que il n'y a pas que Murger, il y a aussi, pour prendre quelqu'un qu'on connaît assez bien, c'est Nadar, qui a complètement fait partie de la bohème, le photographe, et qui a d'ailleurs écrit, qui a commencé en faisant des feuilletons aussi, à temps la ligne. Il y a également quelqu'un comme Baudelaire, qui a écrit notamment un de ses salons, compte rendu sur le bazar Bonne Nouvelle en 1846, ce qu'il a écrit aussi dans le Corsaire Satan, donc dans ce fameux petit journal où s'est retrouvée toute une génération. Il y a également Champfleury, qui est un écrivain qui va devenir le champion, et peut-être par hasard, du réalisme, et qui va défendre Gustave Courbet, et qui ensuite va se consacrer à des travaux sur la faïence, etc., enfin un peu différent. Il y a également Théodore de Banville, qui est donc un poète qui est né aussi en 1820, puisque toute cette génération est née en 1820, qui lui était relativement plus fortuné au départ, mais qui a commencé sa carrière aussi en vivant de feuilletons ou de petites nouvelles dans les petits journaux. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'écrivains qui arrivent sur un marché, finalement, qui est le marché littéraire, qui est déjà occupé, évidemment, qui est occupé par la génération précédente, ce qui est assez logique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont tous en commun, finalement, de n'avoir pratiquement pas de formation littéraire, c'est-à-dire que la plupart n'ont pas terminé leurs études secondaires, qui n'ont pas non plus d'appui, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent personne dans le domaine culturel, et qui n'ont pas d'argent. Donc ils doivent se former eux-mêmes sur le tas et essayer de s'en sortir. Ce qui explique aussi qu'il y a un énorme déchet, évidemment, et que ceux que j'ai cités étaient ceux qui s'en sont sortis relativement bien. D'autres, et notamment si vous lisez les scènes de la vie de Bohème, il y a un appendice très intéressant sur un des compagnons de Murger à qui il a adressé ses lettres, on va en lire quelques-unes, qui s'appelle Léon Noël, qui était un poète venu d'Orléans, qui est tout à fait contemporain de Murger, parce qu'il est né en 18, qui est venu à Paris en 1840, qui a essayé de lancer un journal assez joli d'ailleurs, qui s'appelait Le Livre d'Or, qui n'a eu qu'un numéro, et qui a essayé aussi de donner un peu des cours de dessin, qui finalement, complètement découragé, est retourné dans sa province natale, à savoir à Orléans, pour donner des cours de dessin, pour devenir professeur. Lui, c'est un parmi des centaines qui n'ont pas réussi, qui ont été obligés de se retirer. Il y a des écrivains, mais il y a aussi des artistes, évidemment. Parmi ces artistes, il y en a un qui a fait une bonne carrière, qui est peut-être plus très connu, c'est un paysagiste qui s'appelle Chantreuil, qui a exposé régulièrement au salon, qui venait de province, et qui a débuté dans une librairie, comme Champfleury, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et Chantreuil, finalement, a été aidé, d'ailleurs, par un chansonnier, enfin, quelqu'un qui a eu un énorme succès, qui était Béranger, et qui a pris un peu en charge Chantreuil, qui, grâce à ça, a pu s'en sortir. Mais il y a d'autres artistes, par exemple, trois artistes qui s'appelaient les Frères des Brosses. Le plus âgé, qui est né en 1819, meurt en 1844, et lui, il meurt à l'hôpital d'une phtisie et aussi des privations. Alors je voudrais justement, sur le thème des privations, que Coralie lise un passage de lettre que Murger adresse à son ami Léon Noël, qui est reparti à Orléans pour lui peindre l'état de sa situation. On est en 1842, c'est-à-dire que Murger a 21 ans et il n'écrit pas encore les scènes de la Bohème qu'il va commencer à écrire en 45. Donc voilà ce qu'il dit de lui-même au poète orléanais.
Il y a bien longtemps que nous n'avons causé ensemble. Aussi ai-je pris une grande feuille de papier, ce qui est de sinistre augure. Depuis ma dernière lettre, je n'ai pourtant guère de bien neuf à te communiquer. J'ai passé un mois à l'hôpital, tu sais cela, et tu sais aussi pourquoi. Ma culotte rouge, mon purpura, a résisté à tous les dégâtissages possibles. Je me suis vautré dans le soufre, j'en ai bu, j'en ai mangé, et le dit purpura n'en a pas moins persisté à reparaître tous les jeudis, ce qui est monstrueux pour la science, qui ouvrait des yeux énormes sans y voir plus clair. Enfin, au bout d'un mois, je quittais l'hôpital, et Chintreuil et le Gothi qui prenaient ma place le jour même. Hein, que c'est gai tout ça. Maintenant, me voici rentrée dans la vie privée, et elle est, ma foi, bien nommée, car je suis en effet privée de tout. Hélas, oui, toujours la même chanson. Notre existence est comme une balade à plusieurs couplets. Tantôt ça va bien, tantôt ça va mal, puis mieux, puis pire, etc. Mais le refrain est toujours le même. Misère, misère, misère. Je ne m'appesantirai néanmoins pas trop là-dessus. Christ t'en a parlé. Le loup, lui, va bien, pécuniairement parlant. Attendu qu'il ait reçu à une foule de théâtre. Figure-toi que je travaille comme un bœuf depuis ma sortie de l'hôpital. J'ai passé au moins 10 nuits déjà. J'ai d'abord écrit 2 articles pour le journal de l'Eliou, un autre que je placerai, où je pourrai vers 250 vers d'un drame appelé Marie.
Voilà. Donc ça c'est la réalité quotidienne de ces bohèmes qui ont fondé. Alors vous avez entendu plusieurs noms, enfin Chintreuil dont j'ai parlé. Vous avez entendu aussi Christ, qui est donc ce frère des Brosses qu'on avait surnommé Christ pour sa générosité, qui meurt de phtisie à l'hôpital. Vous avez aussi entendu le loup qui est un ami de Léon Noël, qui est aussi orléanais, et qui lui a commencé assez vite à se faire un nom, enfin si on peut dire, enfin à vivoter en écrivant des pièces assez rapides pour des théâtres, notamment pour le théâtre du gymnase enfantin, c'est-à-dire des pièces qui étaient destinées aux enfants. Parce que le théâtre à l'époque était quand même la grande possibilité quand on cherchait à placer son travail. Donc ça c'est l'hôpital et la misère. Il faut dire que Murger est mort jeune d'ailleurs, il était né en 1822, mort en 61, et il est mort en fait des séquelles de ce purpura. Je sais pas très bien ce que c'est qu'un purpura, mais apparemment c'était une maladie qui entraînait des rougeurs et qui faisait qu'il passait la moitié de sa vie à l'hôpital, surtout à cette époque. En fait il a continué à y faire des séjours de temps en temps, comme ça, et il buvait également énormément de café pour essayer de travailler. Alors là, je voudrais lire une autre lettre, toujours de Murger, toujours à Léon Noël, qui est sur le fait que, bon, il n'a rien pour vivre, c'est toujours une lettre de 42, mais qu'il a décidé de ne pas renoncer à la lutte, c'est-à-dire de continuer à essayer de placer sa prose.
Tu dis être découragé, je connais cela, je connais ces douloureuses angoisses du doute. Voilà 3 mois et plus que je ne puis rien faire, que je suis incapable d'écrire 20 lignes raisonnables pour un misérable journal d'enfants. 3 mois que, comme un phtisique qui s'en va chercher le soleil, je cherche les émotions, quelles qu'elles soient, et que je ne réussis pas à me réchauffer à leur soleil. J'ai le cerveau vide, ami, et rien n'y remue plus qu'en une tombe. J'ai tenté aussi de réveiller cette Josaphat de l'intelligence par les moyens matériels. Il y a des nuits où j'ai pris jusqu'à 6 onces de café pour aboutir à me convaincre plus que jamais de mon impuissance. Et cela, oui, cela depuis 3 mois. Si bien qu'à l'heure présente, je suis tout brisé par l'application de ces moxas qui n'ont rien produit, si ce n'est sans doute le retour de mon purpura, car je sens que je commence à cuire à l'intérieur. Eh bien, malgré tout, je suis trop avancé pour reculer. Tout est contre moi, mais je n'en resterai pas moins dans l'arène. Les bêtes féroces me dévoreront, soit. Je ne sais si je me trompe. Je crois avoir ressaisi la veine et me voilà derechef passant les nuits, buvant du café comme Voltaire et fumant comme Jean Barre. J'ai besoin de m'étourdir et le travail seul m'étourdit.
Murger va donc continuer à essayer de travailler, de placer un peu sa production. qui était au départ des poèmes, et puis peu à peu il s'est lancé dans une veine plus fantaisiste, ce qu'il explique aussi à Léon Noël. Et ce qu'il faut dire, c'est que si j'ai parlé de tous ces personnages, Chantreuil, Nadar, etc., si j'ai parlé de tous ces personnages, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils formaient une sorte de cénacle qui s'appelait la Société des Buveurs d'Eau, pour une raison évidente que vous avez tous trouvée, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de boire du vin, donc ils buvaient de l'eau. C'était une société qui avait des statuts, comme toute bonne société, qui regroupait donc le Loup, Léon Noël, Murger, Nadar. Chantefleurie était un peu à part. Ils essayent, un peu à la manière romantique, si vous voulez, de concilier un idéal artistique, c'est-à-dire essayer de produire une œuvre dont ils soient fiers, et des nécessités économiques, c'est-à-dire quand même pouvoir survivre. Donc ils se disent que s'ils s'allient, ils arriveront mieux à s'en sortir. Mais en fait, cette société qui ne dispose pas de moteur, puisqu'ils en sont tous au même point, c'est-à-dire tous à vivoter, à essayer de trouver à droite, à gauche, dénicher un petit quelque chose, à placer une œuvre, à essayer de vendre quelque chose. Bon, finalement se dissout, et chacun va tenter individuellement sa chambre. On a vu les échecs avec Léon Noël des Brosses, le Christ donc mort à l'hôpital. Quant à Murger et à ses camarades, notamment Nadar, lui, il va choisir la voie du petit journal. Et là, justement, c'est ce qu'on va lire.
Voici au moins 5 mois que je ne t'ai écrit, mais que veux-tu? J'étais à l'hôpital. Maintenant que j'en suis sortie, je vais reprendre ma correspondance, et pour commencer, je t'informerai de mon changement de position locative. J'habite maintenant un appartement magnifique, rue de Vaugirard, 2e étage, balcon sur la rue et 250 francs de loyer. J'habite là avec un jeune homme que tu ne connais pas, vieil ami des Desbrosses, qui veut s'occuper de littérature et qui pourrait faire son chemin s'il n'était paresseux comme une couleuvre. Il a de l'entregent et d'ici à quelques jours, nous allons frayer avec quelque homme de lettres de 2e classe. Un individu qu'il m'a fait connaître va sacrifier 3 ou 4 000 francs pour la fondation d'un journal du quartier latin. Nous serons nécessairement de la rédaction. Banville doit en être également. Nous allons probablement entrer en relation avec lui. D'un autre côté, bien qu'il m'en coûte infiniment, je me résous à mettre ma tonne en perse pour les débits du coin. Je vais faire la chasse au feuilleton et tâcher de m'introduire dans les petits théâtres, sous un pseudonyme, bien entendu, car je ne veux point compromettre mon nom par tous les crimes littéraires que je médite. C'est peut-être une mauvaise voie, celle au gendre, mais que faire? Je n'ai pas de place, et il faut vivre. Puis je me dis que je pourrais me créer des relations, me faire des connaissances utiles pour mes travaux sérieux que je ne veux pas abandonner non plus.
Donc ça, cette lettre me paraît intéressante parce que justement, elle montre parfaitement, elle date je crois de 1843, donc avant ce que je pensais, oui. Et elle montre parfaitement l'alternative pour Murger, c'est-à-dire soit renoncer, soit effectivement mettre sa tonne en perse, comme il dit, c'est-à-dire accepter les travaux qui se présentent. Et ces travaux, donc, ce sont des travaux dans des petits journaux. Alors qu'est-ce que c'est que le petit journal? On a vu que Murger avait débuté dans le Corsaire Satan, le plus grand des petits journaux. Il y en a beaucoup d'autres, pour vous donner des titres, le Tintamarre, vous avez la Silhouette, qui va devenir d'ailleurs assez vite rivale du Corsaire Satan. Vous avez également le Tam Tam, donc c'est une espèce d'explosion de journaux dont on n'a plus l'idée parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus, les petits journaux. Je veux dire des journaux quotidiens qui paraissent sur 4 feuilles. Ces journaux tournaient complètement en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils étaient lus par ceux-là même qui s'y trouvaient mis en cause. Comment c'est possible? C'est-à-dire que la petite presse, en fait, vivait de la manière suivante, sur quelque chose dont on n'a plus l'idée, ou très peu, peut-être avec minutes, qui est la délation. C'est-à-dire que c'était pas très joli, mais un petit journal, si vous voulez, attaquait d'une manière déguisée, mais de telle manière que chacun reconnaissait la personne qui était visée, ils attaquaient dans des entrefilets, qui n'étaient pas signés, bien évidemment, certains personnages. Et il leur demandait, s'ils voulaient faire cesser ces attaques, de s'abonner. Donc c'était une manière quand même assez intéressante de faire. Vous avez d'ailleurs une excellente description du petit journal dans les illusions perdues d'Honoré de Balzac. Balzac qui a connu le petit journal et qui dans la deuxième partie, un grand homme de province à Paris, montre exactement comment Rubempré va être complètement broyé par cette machine qu'il croit maîtriser lui-même, puisqu'il entre dans la rédaction d'un petit journal qui n'est pas nommé d'ailleurs. Le livre est censé se passer sous la Restauration, mais en fait il paraît en 1839, c'est-à-dire juste quand Murger décide d'embrasser un destin littéraire. Donc Balzac décrit parfaitement comment le petit journal peut être une puissance, une force, en attaquant et en faisant de telle sorte qu'on ne peut rien prouver contre lui. Bon, ça c'est la vision effectivement très pessimiste du petit journal. Mais d'un autre côté, la petite presse oblige ses rédacteurs à se faire un style. Et on a vu le style de Murger qui, je pense, est assez reconnaissable, c'est-à-dire un style extrêmement rapide, extrêmement enlevé, toujours une espèce d'amusement, mais en même temps, bon, il sait manier manifestement la phrase. Et c'est grâce certainement au petit journal qu'il s'est formé. D'autres que lui, d'ailleurs, se sont formés, et notamment Champfleury, qui a démarré aussi dans le Corsaire Satan, et qui a fait aussi Les aventures de Sylvius, qui sont aussi des scènes de la vie de Bohème avant la lettre. On n'en lira pas de passage, parce que ça serait trop long, mais je voulais vous montrer une édition illustrée, qui est assez jolie. Vous allez voir les aventures de Sylvius, donc, et des scènes de Rapin. Alors vous le voyez là, Sylvius avec la portière, là c'est le tribunal des 13, ils veulent scier un artiste académique. Avec une grande scie. Là, vous voyez, ça, c'est un petit garçon qui est le rapin, c'est-à-dire l'apprenti de Sylvius. Là, vous le voyez, Sylvius, toujours avec sa portière, dont il est amoureux. Et là, vous le voyez avec une jeune qui est en train de courtiser, enfin, une jeune artiste. Vous ne voyez pas courtiser la jeune artiste, mais vous la voyez elle. Donc, c'est exactement la même chose, et c'est paru aussi dans le Corsaire Satan. Sinon, la petite presse était aussi bénéfique, en ce sens qu'elle a obligé à ces jeunes gens, il fallait bien qu'ils alimentent le journal. Bon, pour alimenter le journal, ils avaient d'une part les feuilletons, puis d'autre part, donc, ces entrefilets qu'on appelait Nouvelles à la main ou Fait Paris, qui étaient des sortes de ragots sur de potins, de cancans, sur X, Y, Z. Pour quand même savoir un peu ce qui se disait, il fallait qu'ils sortent. Donc, ils allaient dans tous les lieux où s'échangeaient ces cancans, à savoir dans les cafés, bien entendu, à savoir sur les boulevards, et à savoir également dans les théâtres, dont ils donnent aussi des comptes rendus, puisque le théâtre a une énorme importance à l'époque, dans la petite presse. Donc là, c'est un extrait d'un roman de Champfleury, justement, ce Champfleury qui a travaillé dans la petite presse et qui a très vite pris ses distances, qui s'appelle Les aventures de Mademoiselle Mariette, qui est exactement comme les scènes de la vie de Bohème, sauf que c'est l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qui était positif chez Murger, la vie libre, etc., c'est au contraire extrêmement négatif. Et vous allez voir la présentation qu'il fait du petit journal.
Gérard vivait alors de la
Gérard, c'est le héros.
Gérard vivait alors de la correction d'un journal artistique. Le Petit Journal, qui jeta pendant 3 ans un assez vif éclat dans le monde des désœuvrés. Cette feuille était dirigée par un vieillard dont toute l'existence se passa de semblables commerces. Inconnu du public, cet écrivain qui se plaisait à se cacher sous le nom de Saint-Charmet, quoiqu'il fût âgé de 60 ans, avait encore assez d'habileté pour s'entourer de jeunes gens spirituels et naïfs qui dépensaient leur jeunesse et leur esprit au profit d'intérêts cachés. Le vieux de Saint-Charmet avait conservé les habitudes littéraires de la Restauration, mais il admettait les nouveaux procédés d'esprit qui se renouvellent tous les 10 ans. Un groupe de jeunes gens entra ainsi dans la vie littéraire avec des formes neuves qui firent de ce journal une puissance momentanée. Rarement on avait vu une assemblée pareille de jeunes gens. Ils s'étaient rencontrés là, arrivant des points les plus opposés, avec les idées les plus diverses et les plus contraires. Si tous s'entendaient à peu près sur la démolition, mentalement ils comprenaient une nouvelle école future. Chacun se croyait le chef d'un mouvement littéraire à venir. Les uns mélangeaient leurs idées littéraires d'idées politiques qui, 10 ans plus tard, devaient amener la révolution. Les autres riaient de tout, se moquaient de tout, écrivaient sur tout. Il y avait de jeunes lyriques qui attaquaient anonymement les grands poètes et qui essayaient de les mordre à l'aide de triolets et de quatrains perfides. Il y avait des idolâtres qui ne connaissaient qu'un homme et ne touchaient à leur plume que pour parler de l'homme. Il y avait des esprits chagrins qui critiquaient tout. Il y avait de jeunes intrigants qui se glissaient partout à la faveur du journal, qui encensaient comédiens, poètes, peintres, persuadés qu'on fait son chemin par le turiféraria. Il y avait des garçons de talent et des gens qui ne savaient pas l'orthographe. On ne comptait pas ceux qui ne savaient pas le français tant ils étaient nombreux, entre autres des Russes, des Allemands, des Italiens, des Polonais, qui apportaient des indications utiles et de l'ouvrage à la rédaction, leur besogne étant péniblement faite et plus pénible à refaire.
Oui, donc ça c'est la vision extrêmement négative qu'a Jean Fleury du Petit Journal, une opinion assez partagée par les écrivains qui sont passés par la petite presse, mais qui leur a permis néanmoins de s'en sortir, puisque pour la plupart, ayant débuté comme ça, c'est ainsi qu'ils ont pu se faire remarquer et progressivement se faire publier par des gens justement comme Michel Lévy, qui avait débuté à peu près dans les mêmes années, puisque Lévy est né en 1822, je crois, 24. Je voudrais, toujours des aventures de Mademoiselle Mariette, toujours de Champfleury, vous donner un extrait où il est question d'un des écrivains du Petit Journal qui s'appelle Streich. Et c'est assez intéressant parce que ce Streich, c'est Murger, c'est-à-dire que les aventures de Mademoiselle Mariette sont un roman à clé, et vous allez voir comment Champfleury traite Murger et les amours de Murger.
Streich était d'un des camarades les plus intimes de Gérard. Ils avaient débuté à la même époque dans le journalisme, demeuraient longtemps ensemble, s'étaient brouillés puis raccommodés et avaient fini tous les deux par se mettre en ménage. Streich demeurait un étage au-dessous de Gérard avec Mademoiselle Rose, une jeune fille pâle et mélancolique qui offrait avec Mariette un contraste frappant. Ses anciens chagrins domestiques, l'hôpital, la misère revenaient souvent dans la conversation de Rose. Aussi parlait-elle plutôt pour elle que pour les autres. Mariette aimait mieux faire la nique à l'avenir que de s'en inquiéter. « Pauline est venue hier dans la journée, » dit Streich. « Nous étions à causer tranquillement tous les deux quand Rose est arrivée. » Elle a pâli et restée quelques minutes sans parler a ouvert la porte. Depuis hier, je ne l'ai pas revue. Que peut-elle être devenue ? Oh, que j'ai souffert cette nuit. Je me suis mise à travailler. « Si tu as travaillé, » dit Gérard, « il n'y a pas de mal. » Moi, je ne travaille pas volontiers quand je suis chagrin. Ou alors, il me faut une douleur tellement violente que je me jette à corps perdu dans le travail pour tâcher d'oublier. Mais Rose reviendra. Oh non, dit Streich, il faut que je la rappelle par le journal. Streich avait une singulière manie. Il n'écrivait que sa vie, ses amours et les amours de Rose. De temps en temps, il découpait une aventure de sa vie comme on coupe une tranche de pâté et portait cette tranche à Monsieur de Saint-Charmais, qui recevait avec plaisir ces sortes de biographies de poètes et de grisettes. Les infidélités de Rose procuraient une aventure par semaine à Streich, qui en publiait assez régulièrement 4 par mois. Ainsi, la disparition de Rose produisit un feuilleton d'un sentiment comique et exagéré. Les chagrins domestiques de Streich se tournaient en mots plaisants. Il excellait surtout dans la peinture de ses recherches d'argent. Mademoiselle Rose, ainsi que toutes ses amies, s'étaient frottées de littérature dans un tel milieu et lisaient les journaux, surtout les feuilletons de Streich. Ayant surpris son secret de découdre un feuillet de sa vie pour le mettre en roman, quand elle avait commis quelques escapades, elle ne rentrait plus qu'après avoir étudié le récit imprimé de cette escapade afin d'être sûre de sa réception. Le Petit Journal, à l'insu du rédacteur en chef, servait ainsi de boîte à lettres aux amours de Streich. Mais cette poste n'était pas toujours fixe. Il arrivait quelquefois que le journal était plein, que le feuilleton ne paraissait pas le lendemain de la brouille. Mademoiselle Rose, ne voyant rien paraître, croyait que Streich, lassé d'elle, ne voulait plus la recevoir. Le récit des aventures demandait 2 nuits de travail. Monsieur de Saint-Charmais se faisait prier pendant quelque temps pour insérer le feuilleton. Chaque brouille éloignait donc Mademoiselle Rose pendant 5 ou 6 jours.
Voilà, donc ça c'est la vision qu'a Champfleury. D'ailleurs vous remarquerez que c'est assez intéressant parce que il décrit Rose comme une jeune fille menue, fine et distinguée, de la même manière dont Murger effectivement dans ses scènes de la bohème la décrit, et Mariette est décrite de la même manière que Musette dans les scènes de la bohème. Il semble d'ailleurs que Champfleury ait eu une aventure avec une certaine Mariette, donc qu'il ait repris carrément le nom de cette jeune femme. Bon, vous voyez un peu de quel milieu sont sorties ces scènes de la vie de bohème et le fait que Murger n'est pas le seul à avoir exploité cette veine. Sur le plan littéraire, C'est-à-dire en ce qui concerne ses héros, puisque là on a parlé surtout de sa situation sociale et de ses difficultés, de sa, la manière dont il a pensé pouvoir arriver, et dont il est arrivé effectivement, puisqu'il a reçu à 38 ans la Légion d'honneur, ce qui n'est pas mal. Sur le plan littéraire, Murger reprend une tradition, qui est une tradition qui se met en place au début de la monarchie de Juillet, enfin dans les années 1830, et qui est la tradition des types parisiens, dont je vous ai parlé un peu à propos de la grisette et de la lorette. Et ces types parisiens sont développés dans une littérature qui est une littérature pittoresque, en général illustrée, par d'ailleurs les meilleurs illustrateurs de l'époque, à savoir Daumier, Gavarni, Granville, Traviès, etc., qui ont illustré ces petits ouvrages, qui se veulent vaguement sociologiques et qui mettent en scène donc des personnages, mais non pas individualisés, mais pris comme type. Alors on a par exemple la portière, on a par exemple l'institutrice, ce sont surtout d'ailleurs des personnages parisien en général, on a la grisette, la lorette, le gamin, et on a un personnage de l'artiste qui est le rapin. Le rapin, qui au départ est d'ailleurs l'apprenti artiste, c'est-à-dire celui qui broie les couleurs pour l'artiste, devient très vite, en argot d'atelier, si vous voulez, l'appellation qu'on donne à l'artiste jeune. Coralie va vous lire un passage qui est extrait d'un de ses ouvrages, un caractère pittoresque, qui s'appelle tout simplement Le Rapin. Je montre d'abord peut-être la manière dont est illustré cet ouvrage. Enfin, chaque scène est illustrée comme ça. Et là, c'est par Daumier, et ça présente donc des illustrations. Donc là, c'est deux rapins qui se serrent les mains. Vous voyez, ils ont les cheveux longs, ils ont le chapeau qui s'appelle le chapeau, le boussingo. Et puis, ils sont habillés avec à la manière tout à fait romantique. Hein. Alors, la description, c'est Louis Huard qui l'a fait, qui est un spécialiste de ce type de littérature.
Le rapin a communément de 18 à 25 ans. Sa tête est peu ornée d'une longue chevelure, couleur terre de sienne ou noire, très peu peignée. Ce même rapin possède un teint nuancé gomme goutteux, un chapeau pointu à large bord et une redingote de velours tigrée de toutes les couleurs de la palette, un cœur brûlant et des bas bleus, une barbiche Moyen-Âge et un eustache de Saint-Étienne au lieu de bonne lame de Tolède. S'occupant peu de politique, le rapin ne lia les journaux que 6 mois après leur apparition, lorsqu'il lui arrive sous la forme d'enveloppe de fromage de Neuchâtel. Par suite de ce régime peu effervescent, nous voulons parler du non-usage des tartines politiques et de l'usage abusif des tartines de Neuchâtel, le rapin ne s'occupe que médiocrement de l'ordre et de la marche du gouvernement, et il ne songe jamais à faire d'émeutes. Notre jeune homme n'adore que la gloire et le cidre de Normandie. Du reste, fort sobre par goût et par nécessité, le rapin mange peu, quoiqu'il ait toujours des croûtes à sa disposition. Il vit solitaire, perché à un 9e étage au-dessus de l'entresol, et ne se montre guère qu'une fois par an, au commencement du mois de mars, à l'ouverture du salon. Quant au langage du rapin, il est inintelligible pour la plupart des gardes nationaux français. Ses mots les plus usuels sont chic, ficelle, ficelé, rococo, chouette-mar, épice-mar, etc., etc. Ils sont tous du sexe masculin.
Ah oui, tout à fait. Il n'est même pas question des femmes dans cette affaire. Donc vous voyez un peu le type de littérature que suit d'assez près Murger, et qui a été tout à fait en vogue dans les années 30-40, très précisément en 1840, entre 1840 et 42, puisque ce fut la mode de petits opuscules, grands comme ça, une 32, qui se vendaient très bon marché, un franc je crois, qu'on appelait des physiologies, et qui décrivaient donc sur un mode comique, non seulement des types, ainsi que je vous ai dit, rapin, lorette, etc., mais vous aviez aussi la physiologie de l'omnibus, vous aviez la physiologie du tabac, vous aviez sous des apparences pseudo-scientifique, si vous voulez. Le but, c'était de faire rire les gens en leur présentant soit un personnage, un type, soit un élément de la civilisation de leur époque. Toutes ces physiologies, donc, qui avaient en général 122 pages, c'est Aubert qui les fait, donc c'est quelque chose d'assez presque industriel, si vous voulez. La vogue dure exactement 2 ans, après quoi ça tombe complètement. Ces physiologies, donc, sont illustrées, et sont illustrées justement par des gens comme Daumier, Gavarni, etc. Donc, par des gens vraiment assez importants. Ce qu'on va lire, c'est dans une présentation d'un rapin, encore une fois, par Théophile Gautier, dans un ouvrage qui appartient totalement à la littérature physiologique ou littérature pittoresque, qui s'appelle Le Diable à Paris, qui est illustré, ces deux pages ne le sont pas, je crois. Et c'est Hetzel qui l'a édité en 1845-46. Ça a eu beaucoup de succès. Vous voyez, c'est des petites vignettes comme ça dans le texte. Ça revenait pas très cher à fabriquer comme ouvrage, encore que celui-là est déjà d'un format plus grand. C'est un octavo.
Un soir, j'entrais près de l'opéra dans un divan où se réunissaient des artistes et des littérateurs. On y fumait beaucoup, on y parlait davantage. C'était des figures toutes particulières. Il y avait là des peintres à tout crin, d'autres rasés en brosse comme des cavaliers et des têtes rondes. Ceux-ci portaient les moustaches en croc et la royale, comme les raffinés du temps de Louis XIII. Ceux-là laissaient gravement descendre leur barbe jusqu'au ventre, à l'instar de feu l'empereur Barberousse. D'autres l'avaient bifurquée comme celle des Christs byzantins. Le même caprice régnait dans les coiffures. Les chapeaux pointus, les feutres à large bord y abondaient. On eût dit des portraits de Van Dyck, sans cadre. Un surtout me frappa. Il était vêtu d'une espèce de paletot en velours noir qui, pittoresquement débraillé, permettait de voir une chemise assez blanche. L'arrangement de ses cheveux et de son poil rappelait singulièrement la physionomie de Pierre-Paul Rubens.
On a la volonté, de la part des artistes, de revendiquer une certaine indépendance par rapport justement à un monde qui est censé ne pas les comprendre. Et ce qui explique que ces personnages, qui sont le plus souvent habillés donc dans des costumes rocambolesques, qui affichent des chapeaux, des coiffures, etc., qui essayent de se faire reconnaître physiquement, soient tournés en dérision sous le terme rapin. Et effectivement, c'est tout un cercle, si vous voulez, autour de Théophile Gautier, de Petrus Borel, etc., qui sont des artistes de la génération précédente, celle de Murger, avait formé un cénacle qui s'appelait les Jeunes France, que d'ailleurs Gautier a ridiculisé en se mettant lui-même en scène dans des scènes qu'il a appelées les Jeunes France, je sais pas si ça doit être ici. Il y a une espèce d'ambiance qui est à la volonté d'une liberté par rapport à ce qui l'environne, d'une liberté de l'artiste qui explique, à mon avis, très bien la naissance du rapin d'une part et la naissance de la bohème qui est un terme. Déjà employé depuis longtemps en tant que bohémien par rapport, donc marginal, par rapport à un corps social, mais le terme bohème n'apparaît comme tel que en 1838, donc assez tardivement, et sous la plume d'un écrivain qui est Georges Sand, qui parle d'une manière très positive d'ailleurs des bohèmes dans un roman qui se déroule à Venise, bon, etc. Et le roman se termine par « Et vive la bohème, chantons, buvons, restons entre nous, et vive la bohème ». Et pour terminer, je voulais simplement lire, c'est juste une définition qu'on donne dans un de ses ouvrages physiologiques qui s'appelle « Le nouveau tableau de Paris » qui paraît en 1834, de l'artiste, des jeunes artistes. La manie ordinaire des jeunes artistes de vouloir vivre hors de leur temps avec d'autres idées et d'autres mœurs les isole du monde, les rend étrangers et bizarres, les met hors la loi, au banc de la société. Ce sont les bohémiens d'aujourd'hui. Donc je crois que le lien entre cette définition de l'artiste comme bohémien au banc de la société et la mise en scène des artistes dans les scènes de la vie de bohème est assez facile à faire. C'est des nouvelles qui ont une ligne, vraiment. Et alors il dit, on a rencontré monsieur, trois points, en compagnie de mademoiselle, trois points. Alors nous, on comprend rien, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi il se réfère. En fait, tout le monde reconnaissait. On donnait un détail juste. Et c'était vraiment un chantage à une privée. Ouais. Mais à l'époque, il y avait des duels quand même, des chanteurs. Aujourd'hui, quand on lit Le Corsaire Satan, moi j'ai lu un peu des passages, on comprend absolument pas ce que ça peut avoir de... Parce que c'est assez anodin, c'est des allusions tout à fait déguisées avec des petites étoiles. Plus du tout on sait plus de qui il s'agit. Il y avait des procès apparemment, puisque apparemment même le Poitevin Saint-Anne, qui était le directeur de ce journal, avait même quelqu'un d'appointé, parce que ça se terminait par des duels. Ce qui que ce qui me paraît proche dans Libération par rapport au Petit Journal, c'est que il y a une sorte de rapidité d'expression, de gaieté, de comique qui est complètement absent par exemple du Figaro du Monde, qui sont des journaux tout à fait honorables, mais qui n'ont pas cette espèce de vivacité qui c'est le seul à mon avis qui se rapproche un peu. Le Canard, c'est totalement différent. Donc ça, c'était les Petits Journaux.
Il y a quelque chose, moi je trouve un peu dans la veine des petits journaux, alors c'est pas vraiment des petits journaux, ce sont pas vraiment des choses d'actualité, ce sont les pastiches que sortait le groupe Jalon pendant un moment, qui avait fait un faux numéro du Monde.
Oui.
Il faisait des choses très très
tout à fait.
Et très enlevées.
Oui, c'est ça.
Tous les premiers avril.
Il y en a un autre qui est sorti également, mais dont j'ai oublié le titre.
Celui qui sort tous les 25 secondes.
Love. Non, mais par contre, il y a une attaque en règle du Petit Journal qui par Goncourt qui s'appelle Charles de Mailly, qui est un roman. Et là, on l'a à la bibliothèque, je l'ai même en pratique.
Ah oui.
Charles de Mailly par Jules Edmond de Goncourt, qui est une attaque bien pire que celle de Champfleury, où il traîne dans la boue tous ceux qui ont travaillé dans le Petit Journal en disant que c'est une génération corrompue. C'est quelque chose qu'on répétait couramment d'ailleurs. Sans littérature, qui ne sait pas écrire, qui n'a pas de classique, qui n'a pas de formation, qui attaque pour attaquer. Les Goncourt font exactement la même chose, autre parenthèse. Enfin bref, c'est assez amusant.
Et c'était comment le Petit Journal? C'est un grand journal?
C'est grand, oui, c'est comme ça. Et c'est sur 4 pages. Ah oui, le corsaire Satan, c'est comme ça. Il y a une vignette qui représente d'ailleurs un corsaire à l'abordage. Une vignette de titre, toujours la même. Et la dernière page, on publie les nouvelles des théâtres. C'est-à-dire, on publie ce qui se donne au théâtre chaque soir. C'est ça aussi qui était important. C'était une sorte de Pariscope. Tous les jours. Hein.
Si Pariscope était
un peu plus. Oui, c'est un journal. Hein. C'est ah oui, c'est pas un hebdomadaire, hein, c'est un journal. Et qui a duré à peu près de 1840, non, même avant, puisqu'avant il s'appelait Le Corsaire. Après il s'est allié avec un autre journal qui s'appelait Le Satan. Ça a donné Le Corsaire Satan. À peu près de 1838, quelque chose comme ça, jusqu'en 1855. Oui, ça a vraiment duré.
Il y a des collections.
Oui, il y en a. À l'Arsenal, il y a une collection. Et à la Bibliothèque Nationale sous forme de microfilm.
Tiré combien?
On pense, moi j'ai lu des chiffres dans l'histoire de la presse française, 800.
800?
Oui.
Et il vivait avec les
riens. Ce qui paraît beaucoup déjà, 800, semble-t-il.
On achetait par abonnement?
On pouvait s'abonner. Oui, c'était par abonnement. Mais je ne peux pas vous l'affirmer, hein, mais je crois.
Avec plus.